Studio Tamani, voici nos informations en français.
8h à Bamako et partout au Mali, mesdames, messieurs, bonjour, voici les titres de cette matinale. Ouverture ce matin du 9e sommet du G5 Sahel en N'Djamena au Tchad. Cette rencontre des chefs d'État du Sahel est attendue pour renforcer la lutte contre le terrorisme et le développement dans la région. Les radios et télévisions du Mali désormais dotées d'un nouveau guide journalistique commun dénommé charte d'antenne des radios et télévisions. Le document a été signé ce samedi 13 février, journée mondiale de la radio. Notre dossier du jour porte sur le Koteba, cette forme de théâtre traditionnel faite de danse et de comédie pour dénoncer les mauvaises pratiques et conscientiser la société. En perte de vitesse, que faut-il faire pour revaloriser le Koteba? Réponse dans ce journal qui vous sera présenté par Sekou Gadjigo, mise en onde Mamadou Ouattara. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Les chefs d'État du G5 Sahel se réunissent aujourd'hui et demain en sommet ordinaire de l'organisation en N'Djamena au Tchad. Cette rencontre devrait prendre de nouvelles dispositions dans la lutte contre le terrorisme dans la région. Selon des sources diplomatiques, le président français Emmanuel Macron, qui participera par visioconférence au sommet, annoncera son plan d'ajustement de la force Barkhane. Les détails avec Maliki Diallo.
Ce 9e sommet du G5 Sahel se tient à un moment où les attaques terroristes se multiplient dans les zones frontalières du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Ce sommet sera un sommet important où des nouveaux engagements beaucoup plus importants que Pau seront pris, a indiqué Alpha Barry, ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, cité par RFI. Selon ce diplomate, les chefs d'État sont conscients des nombreuses attentes des populations et de la fragilité de la situation sécuritaire au Sahel. Au cours de cette rencontre, les chefs d'État se pencheront également sur l'opérationnalisation effective de la force du G5 Sahel avec notamment des réflexions sur les sources de financement pérennes. Le renforcement des armées nationales pour lutter efficacement contre les groupes terroristes est aussi à l'ordre du jour de ce sommet. Aussi, c'est au cours de cette rencontre que le président français Emmanuel Macron informera ses homologues du G5 Sahel de son plan d'ajustement de l'opération Barkhane. Des experts estiment que le nombre de soldats français, 5 100 engagés au Sahel, pourrait être revu à la baisse. Le sommet de N'Djamena permettra également d'élire un nouveau président à la tête du G5 Sahel après la fin du mandat de la Mauritanie. Le président tchadien Idriss Déby Itno doit en principe prendre la tête de l'organisation.
Cette rencontre de N'Djamena intervient dans un contexte sécuritaire où la force conjointe du G5 Sahel est mise à rude épreuve par la persistance des attaques terroristes au Mali et dans d'autres pays du Sahel. Toutefois, du nord au centre, les avis des populations restent partagés sur le bilan de cette force, son utilité et sa capacité à rétablir la stabilité dans les villes et villages de la sous-région. Écoutons leur réaction au micro de nos correspondants à Niafenke et Gao.
Le G5 Sahel, là, c'est quoi même? On est en train de dire que c'est une force sur la bande sahélo-sahélienne, mais qu'on ne voit même pas, on ne sait même pas ce qu'ils font.
Le mot G5 Sahel, là, nous, on a tendance même à oublier.
Le G5 Sahel, c'est des forces qui vont émerveiller les populations du Sahel.
Depuis sa création, sa mise en place, on entend parler de G5 Sahel. Nous pensons que G5 Sahel serait la solution adéquate, la solution idéale pour la sécurité totale de notre Sahel. Mais depuis sa création, nous ne voyons aucun impact du G5 Sahel en ce qui concerne le nord du Mali.
On ne peut pas avoir agi comme nous le souhaitons, mais nous constatons dans ce dernier temps qu'il y a un changement dans le travail du G5 Sahel.
Pour nous, il n'existe même pas.
Vous pouvez réagir à toutes ces informations sur notre page Facebook ou notre compte Twitter. 8h04 à Bamako. Les radios et télévisions du Mali ont désormais un guide qui devrait leur permettre d'éviter des dérapages dans l'exercice de leur métier. Ce document s'appelle « Charte d'antenne des radios et télévisions du Mali ». Il a été présenté ce samedi 13 février à l'occasion de la Journée mondiale de la radio. Cette charte est le fruit du partenariat entre la Haute Autorité de la Communication, l'Union des radios et télévisions libres du Mali et la Fondation Hirondelle. Les détails dans ce reportage de Mouda Issoufi Maïga.
Pour le représentant national de la Fondation Hirondelle au Mali, l'adoption de cette charte d'antenne est une avancée notoire pour les médias maliens. Martin Faye, représentant de la Fondation Hirondelle au Mali.
L'adoption de la charte et la détermination à la vulgariser, je crois, est une grosse avancée pour les acteurs médias au Mali. C'est très important de se fixer des règles qu'on va s'astreindre à respecter.
De son côté, le président de l'Union des radios et télévisions libres du Mali estime que ce nouveau guide permettra de renforcer le professionnalisme des médias maliens et d'éviter d'éventuels dérapages. Bandjougou Danté, président de l'IRTEL.
Tous ceux qui sont dans le domaine de la télé, dans le domaine de la télévision, ont désormais un guide qui leur permet d'éviter désormais des dérapages. Parce que tout ce qui te permet de faire ton travail de façon professionnelle est désormais connu.
Cependant, pour la haute autorité de la communication au Mali, cette charte d'antenne sera désormais un document et référent pour les professionnels des radios et télévisions au Mali dans l'exercice de leurs fonctions. Fodie Touré, président de la HAC.
La charte consiste, entre autres, à garantir et assurer la liberté et la production de la presse, à faire observer les principes démocratiques et de culture de la paix et à faire respecter l'éthique et la déontologie.
Il faut rappeler que ce document a été mis à la disposition des professionnels des médias ce 13 février 2021 au cours de la célébration de la Journée mondiale de la radio.
Compte rendu signé Mouda Issoufi Maïga, les partis politiques de l'Alliance EPM Ensemble pour le Mali, c'est-à-dire l'ancienne majorité sous le régime Ibeka, étaient en conclave ce week-end. Objectif, réfléchir sur les réformes électorales et institutionnelles au Mali. Cette rencontre intervient quelques jours après celle entre le Premier ministre Mokhtar Wane et la classe politique sur la conduite des futures élections et les réformes institutionnelles. Les explications avec Mamadou Samasekou.
Pour le président de l'Alliance EPM, cette session vise surtout d'harmoniser les positions des partis membres du regroupement et faire des propositions adéquates pour la bonne tenue des réformes. Docteur Bokary Tereta.
C'est pour un peu renforcer nos propres capacités en vue des discussions qui vont nécessairement s'instaurer au niveau de la formation politique du cadre de concertation. Permettre à notre regroupement d'exprimer des positions très claires et très précises sur chacun des points qui font aujourd'hui débat au sein de la classe politique malienne.
Selon le représentant du National Democratic Institute, NDI, les futures échéances électorales et les réformes institutionnelles doivent intervenir dans un climat apaisé et inclusif. Dr Badje Hina, représentant résident du NDI au Mali.
Que l'ensemble des groupes sociaux et politiques soient impliqués pour que chacun apporte sa contribution et chacun dise aussi ses préoccupations dans ces réformes qui sont en cours. Nous pensons notamment aux jeunes, nous pensons aux femmes, nous pensons aux groupes marginalisés. En tout cas, je suis très optimiste.
Il faut rappeler que la classe politique et le gouvernement se sont engagés cette semaine à maintenir le contact pour la réussite de ces réformes.
Nous arrivons à présent à notre dossier du jour. Pendant qu'il est 8h passées de 7 minutes, nous parlons du Koteba ou Grand Escargot en langue bamanankan. C'est un jeu collectif qui se pratique en cercle fermé par les acteurs, les musiciens et les spectateurs. Cette forme de théâtre traditionnel est faite de chants, de danse et de comédie pour dénoncer les mauvaises pratiques et conscientiser la société. Mais aujourd'hui, le Koteba est en train de disparaître, d'où la nécessité de le revaloriser selon des anciens joueurs de Koteba, Intala Agbilal.
Selon Cheikh Bounta Karamoro Sissoukou, chef de la mission culturelle de Ségou, le Koteba était à l'origine une forme d'expression théâtrale traditionnelle à la fonction éducatrice et socialisatrice. Il était pratiqué par des paysans qui se regroupaient pour essayer de traduire devant le village les faits marquants de leur vie quotidienne.
Chaque année, après la saison des récoltes, les villageois se réunissaient pour assister à des danses pour commémorer en réalité leur récolte. Donc, à travers elles, on s'est moqué du comportement des habitants, facteur de dysfonctionnement ou générateur de tension. Donc, les acteurs pouvaient tout dire sans jamais désigner notamment quelqu'un.
Pour revaloriser cette pratique disparue de nos villes et villages, certains anciens du Koteba recommandent la sensibilisation des jeunes sur l'histoire de ce riche patrimoine culturel. Maki Touré, ancien du Koteba.
Il faut se ressourcer, savoir étymologiquement Koteba, qu'est-ce que ça signifie. Vous me demandez qu'est-ce qu'il faut faire pour revenir à ça. Il faut sensibiliser les enfants, leur raconter un peu cette histoire autour du Koteba, depuis la naissance jusqu'à nos jours.
De nos jours, plusieurs courants artistiques s'inspirent du Koteba pour faire passer des messages de sensibilisation et d'éducation.
La 8e édition du festival Bogoja ou Festival des maisons décorées de Sibi a pris fin hier dimanche. Ce événement culturel qui consiste à décorer les maisons construites en banco dans cette commune du Mandé a regroupé plusieurs familles engagées dans la promotion de cette culture mandingue. Durant 3 jours, les festivaliers ont eu droit à des visites guidées, des animations et des expositions. Cette édition a été aussi marquée par un concours de décoration des murs des maisons traditionnelles. Faisons à présent le point de l'évolution de la maladie à coronavirus. 3 nouveaux cas de COVID-19 ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures. 31 patients guéris et 0 décès ont annoncé les autorités sanitaires. La situation cumulée est donc de 8 229 cas positifs, 6 196 guéris et 342 décès. Place à présent à votre rubrique Acte COVID présentée ce matin par Elisabeth Ouellette.
Actu COVID. L'Afrique du Sud a suspendu le 7 février 2021 le démarrage de son programme de vaccination contre le coronavirus. Le vaccin britannique développé par Oxford et AstraZeneca, jugé efficace à 70%, a été temporairement de la campagne d'immunisation dans le pays. La décision a été prise suite à la publication d'une étude révélant la limite de cette substance contre le variant de la COVID-19 et son inefficacité sur les personnes âgées de plus de 65 ans. Rappelons qu'il s'agit du même vaccin que les autorités maliennes annoncent avoir commandé. Les détails avec Moussa Malé Sissoko dans ce numéro d'Actu COVID.
Le gouvernement sud-africain a suspendu sa campagne de vaccination contre la COVID-19. Elle devait commencer incessamment avec 1 million de doses. À l'origine de cette décision, c'est une étude de l'Université de Johannesburg qui affirme que ce vaccin est efficace à seulement 22% contre les formes modérées de la COVID-19 chez les personnes âgées de 65 ans. Cette étude juge la performance du virus limité contre le virulent variant sud-africain. Outre l'Afrique du Sud, la commission de vaccination allemande a aussi déconseillé jeudi dernier le vaccin AstraZeneca pour les personnes âgées de plus de 65 ans. La commission indique que le vaccin d'AstraZeneca est actuellement recommandé uniquement pour les personnes âgées de 18 à 64 ans. C'est le même constat également en France. Toutefois, le Mali a annoncé avoir commandé plus de 8 400 000 doses de ce vaccin il y a quelques jours. Selon les spécialistes de la santé du pays, ce type de vaccin s'adapte bien aux conditions climatiques du pays.
Place à la question d'auditeur du jour. Elle est répondue par Dr Aboubakar Sidiki Dramé, coordinateur du centre de prise en charge des malades de COVID-19 à l'hôpital du Mali.
Alors docteur, est-ce s'exposer au soleil peut être un facteur d'éliminer le coronavirus?
La température qui peut tuer ce virus commence à partir de 60 degrés. Alors à 60 degrés, le virus meurt en 5 minutes. Alors si on augmente la température à 70, il meurt peut-être en 2 minutes 5. À 100 degrés, il meurt en 2 minutes ou en 1 minute. Cette température de soleil auquel on s'expose n'est pas suffisante pour pouvoir tuer le virus.
C'est ce qui met fin à Actu COVID d'aujourd'hui. Merci docteur pour ces explications. À très bientôt pour un autre numéro.
Studio Tamani. Studio Tamani, financé par les gouvernements de la Suède, du Danemark, de la Suisse, de la République tchèque et par l'Union européenne.
Un mot de l'actualité régionale avant de refermer cette édition. Le prix de la miche de pain a connu une hausse de 25 francs CFA cette semaine à Smassina dans la région de Ségou. De 100 francs CFA, le pain est actuellement vendu à 125 francs l'unité par les 2 boulangeries de la localité. Cette augmentation est vivement dénoncée par les consommateurs du cercle. Et c'est ce qui met fin donc à ce journal présenté par Sekou Gadjigo à la mise en onde de Mamadou Ouattara. N'oubliez pas, vous avez la possibilité de réécouter ces informations sur notre site www.studiotamani.org ou en appelant au 37 321 sur la plateforme Viamo. Merci et à très bientôt.